Tu t'ennuies ?
Tu sais pas quoi faire.
T'as qu'à écouter les super chroniques des bibliothécaires
de Bourg-en-Bresse.
C'est un mercredi par mois
à 7h30, 8h30 et 12h30.
Sur Radio B, bien sûr.
Bon, tu nous as ratés ?
Pense au podcast. Oui. Bonjour à tous et bonjour à toutes. On est bien heureux de vous retrouver aujourd'hui. Vous retrouvez vos bibliothécaires préférés pour plein de coups de cœur encore super fabuleux. Aujourd'hui, dans ce début de printemps, on est avec Claudie qui va nous parler d'un bouquin.
Un roman,
carrément. Moi qui vais vous parler d'un film, Géraldine d'un album jeunesse et Anne de musique encore.
Oui.
Claudie.
Bonjour à tous, chers auditeurs. Aujourd'hui, je vous propose un roman anglais, Swing Time, de Zadie Smith, que pense vous aimerez. L'auteur est jamaïcaine par sa mère, anglaise par son père et est née à Londres en 1975. Swing Time, son dernier roman, paru en 2018, raconte l'histoire de deux petites filles métisses habitant dans les quartiers populaires nord de Londres et qui deviennent amies. Elles se rencontrent dans une école de danse qui vient d'ouvrir dans leur quartier. Voici, par l'auteur, le tout début de leur rencontre. Si tous les samedis de 1982 peuvent être considérés comme un jour unique, je rencontrais Tracy à 10h du matin, ce samedi-là. Nous marchions sur le gravier d'un cimetière, chacune tenant la main de nos mères respectives. Beaucoup d'autres filles étaient présentes. Mais, pour des raisons évidentes, nous nous remarquâmes, relevant nos similitudes et nos différences, comme les filles en ont l'habitude. Nous avions exactement la même couleur de peau. À croire que nous avions été fabriqués dans le même tissu marron clair, nos taches de rousseur se concentraient aux mêmes endroits, et nous avions la même taille. Mais mon visage affichait une expression réfléchie et mélancolique. Mon nez était long et sérieux, mes yeux tombants, tout comme ma bouche. Le visage de Tracy était guilleret et rond. Elle ressemblait à une Charlotte Temple basanée. Sauf que son nez était aussi problématique que le mien. Je m'en rendis compte aussitôt. Un nez ridicule qui se dressait en trompette tel celui d'un porcelet. Mignon, mais obscène aussi. Ses narines s'offraient constamment au regard. Question nez. On pouvait dire qu'on était ex aequo. Le ton du roman est, comme vous pouvez l'entendre, sans complaisance et plein d'autodérision. L'auteur dépeint avec humour deux filles qui, malgré des ressemblances, ont des personnalités bien différentes. Tracy est sûre d'elle, excessive, plein de charme et douée pour la danse. Son amie, qui n'est jamais nommée dans le livre, est sage et sous l'influence de Tracy. Nous les suivons dans le roman de l'enfance jusqu'à l'âge adulte. L'auteur nous entraîne de manière habile dans une réflexion sur les problèmes d'identité et de racisme auxquels elles sont confrontées. Elle nous montre, tout en finesse, comment le déterminisme social les rattrape. Elle décrit d'un côté une mère, la mère de la narratrice, qui est une femme indépendante, obstinée, poursuivant sans relâche un but très précis, étudier et faire carrière, et de l'autre, la mère de Tracy, qui se contente de vivre son quotidien sans aucune envie de s'extraire de sa condition sociale d'origine. L'environnement familial, décrit avec humour et rythme, joue-t-il un rôle déterminant dans les carrières de ses deux amies? Vous le saurez en lisant ce roman passionnant, Swing Time de Zadie Smith. Je laisse maintenant la parole à mon cher collègue de la médiathèque Vaillant, Antonin, pour un film. Je crois que c'est un thriller policier.
C'est un policier, oui. C'est un thriller. Bonjour à tous, bonjour à toutes encore une fois. Aujourd'hui, on monte en Europe du Nord, au Danemark plus précisément. Imaginez les landes vertes, broussailleuses, parsemées de rochers. Les petites maisons blanches, les bêtes galets, vous y êtes ? Vous y êtes ? Eh bien, oubliez tout. Le film dont je vais vous parler est bien danois, mais vous ne verrez pas un brin d'herbe. Il se déroule intégralement dans une pièce. Je vais vous parler de The Guilty, de Gustav Møller. The Guilty, en anglais, cela veut dire le coupable. Oui, vous l'avez deviné, je vais bien vous parler d'un film policier. Par contre, ce titre est assez énigmatique quant au sujet de ce long métrage. Ne vous y fiez pas. Petite question pour commencer. Avez-vous déjà appelé le 112 ? Avez-vous déjà imaginé le quotidien de ces policiers à l'écoute des centaines de problèmes qu'il faut démêler en quelques secondes, laborieusement, pour en jauger le sérieux et les risques, et pour y répondre de la façon la plus juste ? Sauriez-vous garder votre calme, rester concentré à chaque minute ? Et sauriez-vous bien réagir à l'annonce d'un coup de fil d'une victime d'un enlèvement en direct ? Nous suivons Asger Holm, vissé à sa chaise, un verre d'aspirine à portée, les yeux tantôt sur son écran, tantôt dans le vague. On comprend par quelques petites touches scénaristiques qu'il a été mis au placard. Oh, juste un temps seulement, mais pas pour rien. Il est sombre, tourmenté, et on sent bien que des choses lui pèsent. Alors quand cet appel retentit, tout son être est tiraillé. Est-ce sérieux ? Doit-il faire un signalement ? Ce sont ses premières questions. Mais la plus profonde, qui transparaît dans son regard, est plus grave. Doit-il écouter son instinct de flic ? A-t-il raison de penser que l'histoire est grave ? Doit-il vraiment s'impliquer dans cette affaire alors qu'il doit absolument faire profil bas ? C'est là toute la tension du film qui commence. Un compte à rebours téléphonique et mental, haché de silence, de souffle, d'attente, de courtes phrases, de simples mots qui doivent être précis, réfléchis, au risque de tout perdre. Pour un premier film, le réalisateur tape fort et juste sur un terrain accidenté. Il réussit à maintenir un suspense et une pression électrisante dans les contraintes de ce 15 mètres de décor. L'acteur Jacob Cedergren remplit à la perfection son rôle central dans cette mise en scène serrée. C'était là un défi, car dans ce huis clos, il incarne à lui seul pas loin de 100% de l'espace visuel du film. Si le scénario n'a rien d'exceptionnel, sa plasticité, ses rebondissements et ce cadre atypique très bien mené nous signent un très bon polar. On réussit à imaginer avec lui les scènes hors champ, toutes ces actions qui se passent en creux de son espace clos. Nous sommes comme lui devant un bureau à attendre nerveusement que le téléphone sonne. Et donc, si vous appréciez les mises en abîme et l'idée de vivre de nouvelles expériences en fauteuil devant un écran, emparez-vous vite de ce film que vous trouverez dans les bacs de la médiathèque Césaire à la fin du mois. The Guilty, donc, de Gustav Møller. Et ben, pour être un peu plus en accord avec la saison, un sujet plus heureux, plus printanier, je passe la parole à Géraldine qui va vous présenter un album jeunesse sur l'amitié.
Merci Antonin. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Et oui, en ce début de printemps, je suis tombée sous le charme d'un album élégant et simple dont deux oiseaux sont les protagonistes. Bah oui, les oiseaux, le printemps. Voilà, c'est tout. Il s'agit de Clic et Cloc, écrit et illustré par Estelle Billon-Spagnol et publié aux éditions Talent Haut. Deux œufs sur une branche, deux oiseaux éclos, deux noms, Clic et Cloc. L'un est grand à long bec, l'autre est petit au bec court. Au début, tant ils se ressemblent dans leur amitié, on ne sait pas qui est Clic, qui est Cloc. Un jour, Clic, le grand, cherche Cloc, le petit, disparu. Estelle Billon-Spagnol dessine la fébrilité de la disparition. On voit Clic se démultiplier dans la page, de droite, de gauche, en haut, en bas. Avec d'autres animaux aussi, inquiet, indifférent ou complètement incrédule. Avec la réaction des fourmis qui disent « Si tu n'es pas avec Cloc, c'est que tu n'es pas Clic », voilà la réflexion qui bascule. On ne voit jamais Clic sans Cloc, on ne voit jamais Cloc sans Clic. Qui es-tu ? Qui es-tu ? Eh oui, c'est ainsi la question de l'identité qui est posée. Et puis, cette question de l'identité évolue assez vite lorsque Clic retrouve Cloc. Mais horreur ! Cloc est heureux avec d'autres. Avec beaucoup de délicatesse, l'autrice illustratrice nous montre les ravages de la jalousie, le dépit, la fin de l'estime de soi, et même une tentation mortifère habite Clic. Oui, oui, je vous assure, tout ça peut être contenu, suggéré, dessiné sur une seule page d'album. Et puis, Clic entr'ouvre les yeux. Et devant ses yeux, devant son long bec, il voit le spectacle incroyable et magnifique d'une fleur en train de pousser puis d'éclore. Et il reste scotché. Cet émerveillement, et celui de Clock aussi, qui découvre la voltige avec d'autres oiseaux, montre l'enrichissement réciproque que la vie apporte lorsque chacun vit vraiment de son côté. La conclusion retrouve l'euphorie de l'état initial. L'amitié, c'est la liberté. Se retrouver pour l'échange et partager le plaisir, voilà qui construit un lien authentique où chacun peut respirer. Très simplement dessiné dans un joli décor noir et blanc, où seuls les oiseaux sont identifiés par la couleur, ce récit alerte est une leçon de vie bien élégante, sans moralisme ni pesanteur, manière pour chacun d'apprendre à s'envoler. Le texte est court et très chantant. Il y a un jeu sur les sonorités, en hic et en hoc, jeu qui n'est pas gratuit puisque dans cette histoire, les deux amis sont comme le reflet l'un de l'autre. La simplicité et l'évidence de ce livre m'ont conquise. J'espère qu'il en sera vraiment de même pour vous et vos petits lecteurs. À mettre donc entre toutes les mains dès 3 ans. Et puis, parce qu'il vaut mieux le rappeler 1000 fois que de l'oublier, ce genre de lecture est conseillé au moins jusqu'à 103 ans. Voilà, merci pour votre écoute. Je vais passer la parole à Anne qui nous emmène dans un univers musical étrange et carrément fantomatique.
Mmh. Oui, bonjour. Aujourd'hui, je vous parle d'un album OVNI d'un artiste dont je sais très peu de choses et dont je vous dirai d'ailleurs très peu de choses. Ce que vous venez d'entendre est le premier morceau de l'album Sleepwalking de l'artiste néo-zélandais Jonathan Bree, sorti en fin d'année dernière. Voilà à peu près tout ce que je peux vous raconter. Bon, je peux alimenter tout ça en vous disant qu'il a participé à un groupe de pop appelé The Brunettes et qu'il a son propre label musical, Lil Chief. Mais c'est tout. Je ne peux même pas vous dire à quoi elle ressemble parce que sur la pochette bleutée de Sleepwalking, son dernier album, il y a juste un visage recouvert d'un masque, lui-même recouvert d'un tissu. Improbable personnage, est-ce un robot, un hommage à la froideur électro de Kraftwerk ou... Non, absolument pas. Sleepwalking, en français somnambulisme, est un album aux mélodies étranges, rêveuses, voire fantomatiques, servies par la voix grave de Jonathan Bree, se diluant dans une réverbération envoûtante, ainsi que des chœurs et une section de cordes souvent dissonantes, presque psychédéliques. On entre dans cet album, comme dans une étendue d'eau froide mais enveloppante. On ne cesse de découvrir un monde inquiétant ou lointain, avec quelques touches pop ou romantiques, qui nous laissent comme après avoir ouvert une boîte remplie de vieilles photos sur lesquelles on ne reconnaît presque rien. Le monde de Jonathan Bree ne se livre pas immédiatement avec Sleepwalking. Il faut d'abord accepter d'emprunter un chemin dans une forêt dense et brumeuse. Si vous aimez la balade, vous tomberez forcément sur cette maison aux 11 pièces. Allez les visiter et laissez-vous y passer du temps. Et d'ailleurs, je vous dépose avec You're So Cool à l'entrée du chemin. Thank you. Ah voilà, c'est fini. On vous retrouve le mois prochain. Merci pour votre écoute. Cette chronique peut être écoutée sur le site internet de Radio B.
Peut-être voilà. Pas tout de suite. Mais
non, mais bientôt quoi.
Bientôt. Bon.
Merci.
Merci à vous.
À bientôt.
À bientôt.